Il vient à chaque homme, si égoïste qu'il ait été, un moment vers le soir de la vie où il se sent las de ne travailler que pour lui-même. Le banquier, après avoir attendu la présence d'une jolie nièce et d'une famille heureuse en sa demeure, voyait soudain ses propres espoirs s'effacer et se dessiner à la place la perspective d'une longue vieillesse solitaire. « Non, je veux partir, » dit Guccio. « Je ne veux plus rien en cette France qui s'engraisse de nous et nous méprise parce que nous sommes Italiens. Qu'ai-je gagné en France, je te le demande ? Une jambe raide, 4 mois d'hôtel-Dieu, 6 semaines dans une église et pour finir, ça. J'aurais dû savoir que ce pays ne me vaudrait rien. Rappelle-toi, le lendemain de mon arrivée, j'ai manqué renverser dans la rue le roi Philippe le Bel. Ce n'était pas un bon présage. » Sans parler de mes traversées de mer où j'ai failli 2 fois périr et de tout le temps passé à compter du billon au vilain du bourg de Naufles parce que je m'y croyais amoureux. « Tu t'es fait quand même quelques bons souvenirs, » dit Tholomé. « Bah, on n'a pas besoin de souvenirs à mon âge. Je veux rentrer en ma ville de Sienne où il ne manque pas de belles filles, les plus belles du monde, à ce qu'on m'affirme chaque fois que je dis que je suis siennois. Moins gueuse en tout cas que celle d'ici. » Mon père m'avait envoyé auprès de toi pour apprendre. Je crois que j'ai assez appris. Tholomeï ouvrit son œil gauche. Il y avait un peu de brume sous cette paupière-là. Tu as peut-être raison, dit-il. Le chagrin te passera plus vite quand tu seras loin. Mais ne regrette rien, Guccio. Ce n'est point un mauvais apprentissage que celui que tu as fait. Tu as vécu, couru les routes, connu les misères du petit peuple et découvert les faiblesses des grands. Tu as approché les 4 cours qui dominent l'Europe, celles de Paris, de Londres, de Naples et d'Avignon. Il n'est pas arrivé à beaucoup de gens de se trouver enfermés dans un conclave. Tu t'es rompu aux affaires. Je te remettrai ta part. La somme en est plaisante. L'amour t'a fait commettre quelques sottises. Tu laisses un bâtard en chemin comme chacun qui a beaucoup voyagé, et tu n'as que 20 ans. Quand souhaites-tu partir ?
Demain, oncle Spinello. Demain, si vous voulez bien.
Mais je reviendrai, ajouta Guccio d'un ton rageur. Je l'espère bien, mon garçon. J'espère que tu ne vas pas laisser mourir ton vieil oncle sans le revoir.
Je reviendrai un jour, et j'enlèverai mon enfant. Car il est à moi, après tout, autant qu'au Crécet. Pourquoi le leur laisserai-je ? Pour qu'ils l'élèvent dans leur écurie comme un chien de mauvaise race ? Je l'enlèverai, tu entends ? Et ce sera le châtiment de Marie. Tu sais ce qu'on dit en notre pays. Vengeance de Toscan. Un grand vacarme, venu du rez-de-chaussée, lui coupa la parole. La maison aux poutres de bois tremblait sur ses fondations, comme si 12 fardiers fussent entrés dans la cour. Les portes claquaient. L'oncle et le neveu se portèrent vers l'escalier à vis, qu'emplissait déjà un bruit de charge. Une voix tonna.
« Banquier ! Où es-tu, banquier ? Il me faut de l'argent !»
Et Monseigneur Robert d'Artois apparut en haut des marches.
« Regarde-moi bien, banquier, mon ami. Je sors de prison dans l'instant !» s'écria-t-il. « Le croirais-tu ? Mon doux, mon mielleux, mon borgne cousin, le roi, veux-je dire, puisqu'il semble qu'il le soit, s'est enfin rappelé que je croupissais en geôle où il m'avait jeté, et il me rend à l'air libre, l'aimable garçon. « Soyez le bienvenu, monseigneur, » dit Tholomeï sans enthousiasme. Et il se pencha au-dessus de l'escalier, doutant encore qu'un tel passage d'ouragan pût être l'œuvre d'un seul homme. Baissant la tête pour ne pas se heurter au linteau de la porte, D'Artois pénétra dans le cabinet du banquier et marcha droit vers un miroir.
« Oh là ! Mais j'ai un visage de mort !» dit-il en se prenant les joues à pleine main.
« Il faut avouer qu'on dépérirait à moins. 7 semaines, imagine-toi, à ne voir le jour que par une lucarne croisée de fer, gros comme un dardane. 2 fois le jour, un brouet qui ressemblait déjà à une colique avant même d'être mangé. Par bonheur, mon lormet me faisait passer des plats de sa façon, sinon je ne vivrais plus à l'heure qu'il est. Le coucher n'était pas meilleur que la pitance. Par égard à mon sang royal, on m'avait gratifié d'un lit. J'ai dû en casser le bois pour pouvoir m'allonger les jambes. Patience, tout cela lui sera compté, ô cher cousin. »
En vérité, Robert n'avait pas maigri d'une once et la réclusion avait peu mordu sur sa solide nature. Si sa carnation était moins vive, en revanche, ses yeux gris, couleur de silex, brillaient plus méchamment que naguère.
« Belle liberté dont on me gratifie !»«
Vous êtes libre, monseigneur !» continua le géant, imitant le capitaine du Châtelet. « Mais vous ne pouvez vous écarter de plus de 20 lieues de Paris. Mais la sergenterie du roi doit connaître votre demeure. Mais la capitainerie d'Evreux, si vous poussez vers vos terres, doit en être avertie. Autrement dit, reste ici, Robert, à battre les rues sous l'œil du guet, ou bien va-t'en moisir à Conches. Mais pas un pied vers l'Artois, et pas un pied vers Reims. On ne veut pas de toi au sacre, surtout pas. Tu pourrais bien y chanter quelques psaumes qui ne plairaient pas à toutes les oreilles. Et l'on a bien choisi le jour pour me relâcher. Point trop tôt, point trop tard. Toute la cour est partie. Personne au palais, personne chez Valois. Il m'a bien abandonné, ce cousin-là. Et me voici dans une ville morte, sans seulement 1 liard en bourse pour souper ce soir et trouver quelques filles sur laquelle employer mon humeur amoureuse. Car 7 semaines, vois-tu, banquier? Non, tu ne peux comprendre. Cette chose-là ne doit plus guère te taquiner. Remarque, j'ai assez ribaudé en Artois pour me tenir calme quelque temps. Et il doit se préparer là-bas bon nombre de petits valets qui ne sauront jamais qu'ils descendent de Philippe Auguste. Mais j'ai constaté une chose étrange, que les docteurs et philosophes, ces rats, devraient méditer. Pourquoi est-il un membre chez l'homme qui, plus on lui fournit de besogne, plus il en réclame? Il eut un grand rire, fit craquer une cathèdre de chêne en s'y asseyant, et soudain parut remarquer la présence de Guccio. « Et vous, mon gentillet, comment vont vos amours ?» demanda-t-il, ce qui signifiait dans sa bouche rien de plus que « bonjour ».« Mes amours, parlons-en, monseigneur, » répondit Guccio, mécontent de cette violence plus bruyante qui interrompait la sienne. Tholomeï, d'une grimace, fit signe au comte d'Artois que le sujet n'était guère d'à propos. « Eh quoi ?» s'écria d'Artois avec sa délicatesse coutumière. « Une belle vous a quitté ? Donnez-moi vite son adresse, j'y cours. Allons, ne prenez point cette triste face. Toutes les femmes sont des catins. »« Ah, certes, monseigneur, toutes. Alors, ébattons-nous au moins avec des catins franches. Banquier, il me faut de l'argent, 100 livres. Et j'emmène ton neveu souper avec moi pour lui tirer de la tête ses idées noires. 100 livres. Oui, je sais. » Je vous dois déjà beaucoup et vous vous dites que je ne vous paierai jamais. Vous avez tort. Avant peu, vous verrez Robert d'Artois plus puissant que jamais. Le Philippe peut bien se faire enfoncer la couronne jusqu'au nez. Je ne tarderai pas à le décoiffer. Car je vais t'apprendre une chose qui vaut plus de 100 livres et qui va te servir fort pour prendre garde à qui tu prêtes. Comment punit-on le régicide? Pendaison, décollation, écartèlement? Vous assisterez bientôt à un plaisant spectacle. Ma grosse tante Mao, nue comme Ribaude, étirée par 4 chevaux et ses vilaines tripes déroulées dans la poussière. Et son blaireau de gendre lui tiendra compagnie. Le dommage sera qu'on ne puisse les supplicier 2 fois, car ils en ont tué 2, les scélérats. Je n'ai rien dit tant que j'étais au Châtelet pour qu'on ne vienne pas une belle nuit me saigner comme un porc, mais j'ai pu me faire tenir au courant. Lormet, toujours mon Lormet, ah, le brave homme. Écoutez-moi. Après 7 semaines de mutisme forcé, le terrible bavard se rattrapait et ne reprenait son souffle que pour parler davantage. Écoutez-moi bien, poursuivit-il. 1. Le roi Louis confisque à Mao ses possessions d'Artois où mes partisans s'échauffent. Aussitôt, Mao le fait empoisonner. 2. Mao, pour se couvrir, pousse Philippe à la régence contre Valois, qui, lui, est prêt à soutenir mon droit. 3. Philippe fait accepter son règlement de succession qui exclut les femmes de la couronne de France, mais non de l'héritage des fiefs, vous pensez bien. 4. Étant confirmé régent, Philippe peut lever l'oste pour me déloger de l'Artois que je suis sur le point de regagner entièrement. Pas folle, je viens me rendre seul. Mais la reine Clémence va accoucher. On veut avoir les mains libres. On m'incarcère. 5. La reine met au monde un fils. Pécadille. On ferme Vincennes, on cache l'enfant au baron, on raconte qu'il n'est pas né viable, on s'acoquine avec quelques ventrières ou nourrices qu'on effraie ou qu'on soudoie, et l'on tue un 2e roi. Après quoi, on va se faire sacrer à Reims. Voilà, mes amis, comment s'obtient une couronne. Tout cela pour ne pas me rendre mon comté.
Au mot de nourrice, Tholomeï et Guccio avaient échangé un bref regard d'inquiétude.
Ce sont choses que tout un chacun pense, acheva d'Artois, mais que nul n'ose proclamer, faute de preuves. Seulement, j'ai la preuve, moi. Je vais maintenant produire une certaine dame qui a fourni le poison, et puis après, il faudra faire un peu chanter dans des brodequins de bois la Béatrice d'Hirson qui a servi de maquerelle du diable en ce beau jeu. Il est temps d'y mettre fin. Sinon, nous allons tous y passer.
50 livres, monseigneur. Je puis vous remettre 50 livres.
Avare. C'est tout ce que je puis.
Soit. Tu m'en devras donc 50 autres.
Mao te paiera tout cela, avec les intérêts.
Guccio, dit Tholomeï, viens donc m'aider à compter 50 livres pour monseigneur.
Et il se retira avec son neveu dans la pièce voisine.
Mon oncle, murmura Guccio. « Croyez-vous qu'il y ait du vrai dans ce qu'il vient de dire ?»«
Je ne sais, mon garçon, je ne sais. Mais je crois que tu as raison assurément de partir. Il n'est point bon d'être trop mêlé à cette affaire qui a mauvaise odeur. Les étranges manières de Bouville, la soudaine fuite de Marie... Sans doute on ne peut prendre au comptant toutes les agitations de ce furieux, mais j'ai souvent remarqué qu'il ne passait pas loin de la vérité lorsqu'il s'agissait de mes faits. Il y est maître et les respire de loin. Rappelle-toi l'adultère des princesses. C'est bien lui qui l'a fait découvrir et nous l'avait annoncé. « Ta Marie, » dit le banquier en balançant sa main grasse d'un geste de doute, « elle est peut-être moins naïve et moins franche qu'elle semblait. Il y a certainement un mystère.
Après sa lettre de trahison, on peut tout croire, » dit Guccio dont la pensée s'égarait dans 20 directions.
« Ne crois rien. » « Ne cherche rien. Pars. C'est un bon conseil. »
Quand Monseigneur d'Artois fut en possession des 50 livres, il n'eut de cesse que Guccio partagea la petite fête qu'il comptait s'offrir pour célébrer sa libération. Il lui fallait un compagnon, et il se fût saoulé avec son cheval plutôt que de rester seul. Il y mettait tant d'insistance que Tholomeï finit par souffler à son neveu.
« Va. Sinon nous allons le blesser. Mais... « Tiens ta langue. »
Guccio termina donc sa désespérante journée dans une taverne dont le tenancier payait tribut aux officiers du guet pour qu'on le laissât faire un peu de trafic bordelier. Toutes les paroles qui se prononçaient là étaient d'ailleurs répétées à la sergenterie. Monseigneur d'Artois s'y montra dans son meilleur, insatiable au pichet, prodigieux d'appétit, braillard, ordurier, débordant de tendresse envers son jeune compagnon, et retroussant les jupes des filles pour faire reconnaître à chacun le vrai visage de sa tante Mao. Guccio, pris d'émulation, ne résista guère au vin. L'œil brillant, les cheveux en désordre et le geste mal assuré, il criait
« Moi aussi, je sais des choses. Ah, si je voulais parler...
Parle ! Parle donc !»
Il restait à Guccio, dans le fond de son ivresse, une lueur de prudence.
« Le pape, » dit-il. « Ah, j'en sais long sur le pape !»
Soudain, il se mit à pleurer comme une rivière dans les cheveux d'une ribaude qu'il gifla ensuite parce qu'il voyait en elle l'image de toute la trahison féminine.
« Mais je reviendrai et je l'enlèverai !»«
Qui donc, le pape ?»«
Non, son enfant !»
La soirée tournait à la confusion, les regards étaient vacillants et les filles fournies par le bordelier n'avaient plus guère de vêtements sur la peau quand Lormet s'approcha de Robert d'Artois pour lui dire à l'oreille
« Il y a dehors un homme qui nous épie. »«
Tue-le !»
répondit négligemment le géant.
« Bien, monseigneur. »
Ainsi, Madame de Bouville perdit un de ses valets qu'elle avait attaché au pas du jeune Italien. Jamais Guccio ne saurait que Marie, par son sacrifice, lui avait probablement épargné de finir le ventre en l'air sur les flots de la Seine. Vautré dans une couche douteuse sur les seins de la fille qu'il avait giflée et qui se montrait compréhensive au chagrin de l'homme, Guccio continuait d'insulter Marie et imaginait se venger d'elle en pétrissant une chair mercenaire.
« Tu as raison. Moi non plus, je n'aime pas les femmes, c'est toutes des trompeuses. »
disait la Ribaude, dont Guccio ne se rappellerait jamais les traits. Le lendemain, le chapeau enfoncé jusqu'aux yeux, les membres las, l'âme et le corps également écœurés, Guccio prenait la route d'Italie. Il emportait une coquette fortune sous forme d'une lettre de change signée de son oncle et qui représentait sa part de bénéfices sur les affaires qu'il avait traitées depuis 2 ans. Le même jour, le roi Philippe V, sa femme Jeanne et la comtesse Mao, avec tout leur train de maison, arrivaient à Reims. Les portes du manoir de Cressay s'étaient déjà refermées sur la belle Marie qui y vivrait, inconsolable, un perpétuel hiver. Le vrai roi de France allait grandir là, comme un petit bâtard. Il ferait ses premiers pas dans la cour boueuse, parmi les canards. Il irait rouler dans la prairie aux iris jaunes, le long de la Maudre. Dans cette prairie, où Marie, chaque fois qu'elle y marcherait, revivrait ses brèves et tragiques amours. Elle tiendrait son serment, tous ses serments, envers Guccio comme envers le royaume. Garderait son secret, tous ses secrets, jusqu'à son lit de mort. Sa confession, un jour, troublerait l'Europe.